ne peut pas tout emboîter et considérer que ces différentes dimensions fassent système. Cela dit, ces éléments, si on les considère ensemble, elles nous intéressent pour notre propos. Hein. Prise ensemble, la stratégie des firmes, on peut comprendre que la stratégie des firmes n'a cessé d'être minée par une incertitude radicale. Hein. C'est-à-dire que la compréhension de l'évolution de leur environnement devient très opaque. Hein, en particulier, les firmes ne sont pas forcément les plus intelligentes, je dirais, pour comprendre les bonnes relations entre les technologies et les qualifications, par exemple, ou les produits et les marchés. L'incertitude radicale, elle peut, d'ailleurs, qu'elle soit d'origine commerciale, financière, technique ou même scientifique, parce qu'il y a un renouveau des connaissances, se redouble en interne, bien sûr, d'une incertitude sur la capacité des firmes à définir leurs propres besoins, leurs propres consommations intermédiaires, quel type d'investissement, quel type de personnel qualifié. Mais si on descend beaucoup plus loin, l'incertitude radicale, elle ne s'arrête pas là. Elle va très bas, elle descend très bas au cœur des firmes. Elle descend au niveau de la variété des situations de travail. Au regard desquels, les buts du travail, les moyens requis pour atteindre ces buts, sont jamais c'est toujours flou, c'est jamais fixé, c'est jamais maîtrisé par les directions. Hein. Les directions ne sont pas plus intelligentes que ceux qui nous gouvernent, je dirais. Hein. C'est-à-dire que quelque part, la firme ne fait plus écran entre un extérieur et un intérieur. Hein. Il y a une porosité, une continuité de relations entre l'interne et l'externe, et que la firme, disons, est de moins en moins, joue de moins en moins ce rôle d'interface. Hein. Alors tout ceci pour un petit peu arriver à cette idée de la vacuité d'un système d'organisation et de gestion du travail fondé sur la hiérarchie et la prescription. Hein. C'est-à-dire que de plus en plus, le mode hiérarchique, le mode de la prescription fait problème, et à contrario, on voit de plus en plus le travail s'installer dans des espaces ouverts, out. Et ces espaces ne sont pas des espaces qui sont concédés par le management. Ce ne sont pas non plus des espaces qui sont reconquis par le conflit ou la négociation. Ce sont des espaces qui s'affirment comme une nouvelle frontière du travail. Hein. C'est comme un nouveau terrain d'action pour le travailleur lui-même. Hein. Et donc, dans cet environnement incertain, radicalement incertain, on a une situation de fait où le travailleur est de plus en plus livré à lui-même pour définir ses propres formes d'engagement, ses propres formes d'application, pour définir ses moyens d'action. Hein. Dont les ressorts ne sont jamais déterminés a priori. Hein? Le travail est de moins en moins une action immédiate, préprogrammée, mais de plus en plus un problème à résoudre face à l'événement, quelque part. Hein? Il y a un travail qui n'est plus déterminé, qui n'est plus structuré. J'ai appelé travail cognitif tout travail dont le travailleur a l'intelligence et l'initiative, quelque part. C'est-à-dire que le travailleur cognitif, ou le travail cognitif, c'est un travail dont la possibilité même repose sur l'autonomie, l'initiative, l'intelligence des individus en situation. Donc le travail cognitif est quelque part le point d'arrivée de la crise du Fordisme et c'est le point de départ de son dépassement aussi. Hein. Bon, quelque part, on peut dire que ce travail cognitif, bien sûr, ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il a un frère jumeau, c'est le travail de l'artisan, par exemple. Hein. Quelqu'un qui a complètement l'intelligence et l'initiative de ses modalités de travail, de son rythme, de son contenu, de ses séquences. Hein. Donc on a un frère jumeau, mais on peut dire aussi que qui prenait dans cette situation-là une forme singulière. C'était un travail clandestin au procès de travail. Hein. C'est-à-dire, c'était pas un travail visible. C'est un travail qui finalement correspondait à ce que les sociologues du travail ont bien mis en évidence. C'est la différence entre le travail réel et le travail prescrit. Hein. C'est le travail cognitif que l'on reconnaît dans le roman de l'établi de Linhart, etc. Hein. Donc on a toute une... et aujourd'hui encore, le travail cognitif, il est illisible, ou une grande partie du travail cognitif est illisible aux yeux des directions. Donc, bon, le souci aussi, quand je mets en avant l'idée de travail cognitif, c'est pas de l'opposer au travail de l'artisan ni au travail taylorien, mais c'est de le situer. Hein, c'est de le situer et de les uns par rapport aux autres, et le différencier dans un continuum, qui, selon étant développé ici, mais qui est celui un petit peu de la capacité politique, la capacité intellectuelle qu'il y aurait à avoir à ce niveau-là, hein, une qualification du travail cognitif. Alors, On peut peut-être revenir un peu aujourd'hui au fait, c'est-à-dire que si le travail cognitif prend aujourd'hui une si grande importance au plan économique, moi, il me semble qu'il y a une raison forte. Les objectifs ultimes de production des entreprises sont de moins en moins les buts immédiats du travail. C'est qu'il existe une déconnexion radicale, de plus en plus forte, de plus en plus explicite, entre ces deux buts ne peuvent plus être atteints par un travail direct au sens de Marx, je crois, mais demande aux initiatives d'inventer des solutions, d'en passer par des parcours intermédiaires, d'en passer par des parcours, des objectifs, des activités intermédiaires. Ces objectifs et ces activités sont réels, sont virtuels, sont formels, sont informels, complexes, simples, mais ce sont des objectifs qui sont indispensables pour avancer dans le processus de production et de fabrication. Donc on est intermédiaire, cet espace intermédiaire entre les objectifs immédiats du travail dessine les contours, ce que j'appelle vraiment une division cognitive du travail. Ce sont des activités qui sont structurées par des échanges sociaux non marchands, principalement. Ce sont des négociations, des jugements, des partages de connaissances, des mises en commun de ressources propres. Les individus communiquent leur carnet d'adresses comme leur savoir-faire ou leur tour de main. Et donc, on a là un espace productif, social, d'emblée social, d'emblée collectif, qui fonde un petit peu l'organisation et le processus du travail lui-même, le processus cognitif. Alors, une précision cependant, c'est que cet espace productif ne sont pas totalement laissés au libre arbitre des salariés ou du travailleur, si je puis dire. Les directions ne sont pas indifférentes à la manière dont le travail se déroule. Seulement, la grande question, c'est qu'elles ne peuvent pas intervenir directement sur le travail des salariés, elles ne peuvent pas intervenir sur le quoi faire ou le comment faire, mais elles ne peuvent intervenir que sur les affects, sur les dispositions et les motivations à faire. C'est-à-dire, soit très en amont du processus de travail cognitif, c'est-à-dire même au niveau de la relation salariale, ou très en aval de celui-ci, en créant des indicateurs de suivi, en créant des indicateurs de validation des performances individuelles. Donc le travail cognitif, quelque part, a cette particularité de polariser les contrôles aux extrêmes. Et entre les deux extrémités, c'est-à-dire dans le travail même, à ce moment-là, on a une situation tout à fait nouvelle, c'est-à-dire que les règles, les techniques, les équipements sont moins des instruments de suggestion ou de déqualification que des instruments cherchant à soutenir ou à faciliter l'éclosion productive ou des capacités cognitives. Bon, voilà un petit peu le tableau, si vous voulez, de l'organisation du travail cognitif. Si je récapitule, le travail cognitif a trois dimensions, quelque part. Il a une dimension spatiale, c'est-à-dire que sur la base de cet espace intermédiaire, c'est, je dirais, un flux d'interaction, mais toujours localement situé, toujours en référant à un problème à résoudre, toujours en référant à un espace ouvert. Le deuxième aspect, c'est qu'il a une dimension temporelle, c'est-à-dire que c'est une temporalité ouverte, complètement ouverte, purement subjective. Je veux dire par là que la résolution de problèmes, en tout particulier, est difficilement compatible avec le temps planifié du bureau des méthodes, de chez Renault. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va trouver, même si on peut programmer les expériences et les solutions. Si on arrive à tayloriser, bien sûr, ce temps-là, on peut, mais pas indéfiniment. Et la troisième dimension, c'est la dimension entrepreneuriale ou politique, c'est-à-dire que l'individu, dans ce travail-là, se mobilise au regard des objectifs et des moyens dont il a l'intelligence et l'initiative. C'est-à-dire que voilà trois dimensions qui me paraissent centrales du travail cognitif, et ces trois dimensions ont le même rythme. Elles ont leur histoire propre, elles sont inégalement développées, elles se développent selon des configurations multiples et variées. Bon, le travail cognitif peut se retrouver dans un registre d'action sous de multiples formes. Alors, mais le travail cognitif, si vous voulez, c'est pas seulement une nouvelle configuration espace-temps dans l'entreprise. C'est aussi une nouvelle dimension productive. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais je vais m'y attarder là. Cette dimension productive est singulière parce que le travail cognitif dépend directement des moyens et des capacités des individus à s'auto-organiser dans l'action. Et donc, on a qui s'inscrit dans le temps continu de la pratique, de la construction de l'action. La productivité du travail cognitif s'inscrit dans la temporalité du faire, quelque part, si je puis dire. Elle s'oppose radicalement à une productivité taylorienne ou smithienne, où la productivité, c'est le geste prédécoupé, pensé dans un temps planifié, discontinu. Donc on a un rapport au temps qui est un rapport continu et non plus un rapport discontinu. Alors, quel est le fondement ultime de la productivité du travail cognitif, enfin de cette productivité, c'est à mon sens l'apprentissage. C'est-à-dire que au gré des événements, des classes de problèmes à résoudre, qui s'imposent, notre travailleur cognitif, quelque part, ne cesse d'apprendre en se productive, je dirais, selon deux modalités. Une première modalité qui consiste à accumuler des connaissances et des savoir-faire spécifiques, localement situés par rapport à un problème à résoudre, mais aussi une deuxième modalité qui est l'expérience du travail en équipe. C'est-à-dire qu'il accumule aussi tous les échanges sociaux, tous les savoirs sociaux qui servent de médiation à l'expérimentation et à la construction de cette capacité singulière. Hein. Donc on a ces deux dimensions. La productivité du travail cognitif, c'est un mixte. C'est un mixte inséparable d'une productivité individuelle qui tient aux ressources et aux capacités personnelles. Et c'est une productivité sociale qui est liée aux normes, au langage mobilisé, dans l'action, dans le travail, et qui sont perpétuellement échangées, reprises, réinventées collectivement, hein, et qui est, et à quoi elle sert cette norme ? À organiser l'action. On voit bien qu'il y a une dualité construite et inhérente au travail cognitif, une productivité individuelle, bien sûr, liée à des singularités, je dirais, socio-techniques, enfin, capacités personnelles, et une productivité sociale et collective. Alors, deux remarques une dernière remarque avant de passer aux métropoles. Si l'apprentissage, c'est le moteur de la productivité du travail cognitif, encore faut-il que le travailleur cognitif soit présent durablement dans l'emploi qu'il occupe. Ça me paraît naturel. Et la continuité de la relation de travail dans l'emploi est centrale, hein, économiquement, socialement, politiquement. Mais je dirais même que l'apprentissage, elle est plus importante que la relation d'emploi elle-même. Hein. Elle est plus importante. Hein. C'est-à-dire que l'apprentissage doit pouvoir survivre à l'arbitraire des directions. L'apprentissage doit pouvoir survivre à la concurrence et à la conjoncture des marchés. Hein. Donc, à défaut, l'actif n'est qu'une chimère, hein, si je puis dire. Hein. Je dirais, au mieux, une affaire réservée à une élite, c'est-à-dire les cadres, les scientifiques, les managers.